8h48, Élodie de Sélis, votre invitée ce matin a écrit un livre sur un double féminicide.
Oui, mais pas le meurtre de deux femmes, le meurtre d'une femme à deux reprises. Le 2 mai 2001, Barbara, 25 ans, est retrouvée morte dans son appartement d'Etterbeek, étranglée puis égorgée. Rapidement, les soupçons se portent sur l'ex-petite amie de la victime. Les éléments s'accumulent et il est placé en détention jusqu'au procès en cour d'assises 2 ans plus tard. L'avocat général réclame 30 ans de prison, mais une cour d'assises à l'époque, ce sont 12 jurés, 12 citoyens ordinaires qui doivent établir une intime conviction. 6 jugeront le prévenu coupable, 6 opteront pour la vie inverse et quand il y a 50-50, la justice belge déclare l'acquittement. Pour la famille de Barbara et même pour le commissaire chargé de l'affaire, c'est l'anéantissement. Ce livre rend hommage à Barbara, mais veut aussi pointer les failles de notre système judiciaire. Il a pour titre « Ma sœur Barbara, tuée deux fois ». Et vous l'aurez compris, l'autrice est la sœur de la victime. Elle s'appelle Nathalie Weinberg, elle est notre invitée ce matin. Bonjour.
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 Nathalie Weinberg, on était donc en 2001, comme je l'ai dit, comme je viens de le dire. On est 25 ans après les faits. Barbara aurait eu 50 ans cette année. Le système de la cour a été entre-temps réformé, en partie grâce à vous, on va en parler. Pourquoi ce livre aujourd'hui?
Ce livre aujourd'hui, parce que c'était le moment, je pense. Il faut du temps pour se relever de ça, remettre sa vie à l'endroit, comme je disais déjà. Il y a eu une rencontre fortuite du commissaire Jean-Michel Lemoine avec quelqu'un des presses de la cité qui lui a proposé de lui écrire une affaire où justice, enfin pour laquelle justice n'a pas été rendue. Et il a pensé à nous parce que je pense que c'est une affaire qui n'avalera jamais. Et voilà, dans son métier fou, il n'avait absolument pas le temps d'écrire et donc il m'a proposé de le faire. Et voilà, ça m'a paru comme une évidence que c'était nécessaire en fait. C'était, voilà.
Alors le livre se sépare en plusieurs parties. Il y a une première partie qui sont les faits, une deuxième partie qui est la justice. Il y a une différence de ton même entre les deux. Il y a une troisième partie consacrée à Barbara. Il y a une narration d'abord relativement neutre. Le livre s'ouvre sur le travail du grutier qui va découvrir le corps de votre sœur et vous racontez cette histoire en partie à la troisième personne. Bien sûr, les faits sont là et c'est absolument glaçant, saisissant, mais vous vous positionnez dans une forme de narration comme si vous racontiez une fiction. On imagine que c'était peut-être plus facile de le faire de cette façon-là. Et puis dans la deuxième partie consacrée à la justice, là, on sent qu'il y a une colère qui est encore toujours très vivace. Comment est-ce que vous avez vécu ce processus d'écriture ?
Exactement comme vous dites, c'est-à-dire que quand... les presses m'ont proposé d'écrire sur cette affaire. Je me suis demandé comment j'allais aborder le sujet. Je voulais pas rentrer dans un style, voilà ce qui nous est arrivé, etc. Et donc je me suis dit bon, on prend les choses du début. Et je me suis mise en retrait, en regard en fait. Bon, qu'est-ce qui s'est passé vraiment ? Ben, je commence par ce grutier qui s'est levé un matin. Et donc comme un regard extérieur du film qui s'est déroulé tout au long de ce qui s'est passé en fait. Je pense que j'ai eu besoin de faire ce pas en retrait pour pouvoir raconter comme je l'ai fait.
Mais malgré tout, on comprend que vous avez vécu ces choses, vous, parce qu'il y a des moments qui sont décrits avec une sensibilité qu'on ne peut avoir que si on a vécu les choses. Et notamment des moments particulièrement pénibles, ce sont les secondes qui précèdent l'annonce où tout bascule et puis ce fameux basculement. Et vous écrivez votre ressenti, vous dites 2 jours plus tard, je me sens comme passée de l'autre côté, j'ai franchi une frontière invisible, je suis seule face au reste de l'humanité. Le but, c'est aussi de montrer les ravages de ce qu'on peut considérer comme un fait divers sur toute une famille.
Oui, c'est ça. Quand on entend à la radio ce type de fait divers, on a « Oh mon Dieu !» et puis on passe à autre chose, terminé. Aussi parce que c'est quelque chose qui n'existe pas dans la vraie vie, en fait. Au cinéma, dans les séries, les meurtres, on reste assez indifférent. C'est parce que quelque part, je pense, dans l'inconscient ou dans le conscient, on sait que ça n'existe pas dans la vraie vie. Or, quand ça vous tombe dessus... oui, c'est la sidération absolue, en fait. Et effectivement, vous avez ce sentiment d'être passé de l'autre côté de quelque chose et vous regardez le reste du monde comme ne comprenant pas. Vous savez pas ce qu'on vit, en fait. Et heureusement, d'ailleurs, hein, mais...
Parce que normalement, ça n'arrive qu'aux autres, normalement.
Absolument.
C'est ce qu'on croit. Vous parliez du commissaire Jean-Michel Lemoyne qui a mené cette enquête, qui est très présent dans le livre, qui est à son origine, on l'a compris, et qui a un des rôles principaux. Vous vouliez aussi rendre hommage à ceux qui font ce métier-là, à ces personnes-là?
Oui, absolument, parce que on a été en contact avec une équipe incroyable que lui menait et qu'il mène encore d'ailleurs. Donc, à la fois d'une force et d'une sensibilité impressionnante en fait. Et donc, ça nous a aidé, je pense, à avancer petit à petit dans ce chemin noir en fait. Qu'il fallait traverser absolument. Beaucoup d'humanité, beaucoup d'empathie, en fait, de la part de Jean-Michel Lemoyne et de son équipe aussi. Vraiment à l'encontre de ce qu'on peut imaginer de policiers plutôt rustres et parfois même brutaux. Enfin, voilà, c'est aussi des images clichés qu'on a, mais en fait pas du tout.
Et puis il y a le temps du procès qui arrive 2 ans plus tard. Vous le décrivez avec précision. Un procès qui, de prime abord, a l'air relativement simple, qui devrait se passer rapidement parce que de très nombreux éléments accusent une personne. Mm-hmm. Mais c'est un procès d'assises, ça veut dire qu'il y a 6 citoyens ordinaires, lambda, qui doivent se prononcer. À quel moment vous sentez que peut-être les choses ne vont pas être aussi simples?
Donc le procès s'est déroulé, du lundi au vendredi. Donc il y a le défilé des experts, des témoins, etc. Et le jeudi, en fait, les jurés ont commencé à poser des questions étranges, qui dont les réponses semblaient claires au vu de ce qui avait été entendu précédemment. Donc on s'est dit il se passe quelque chose. Ils ont pas compris. Il se passe quelque chose, mais on ne savait pas quoi évidemment puisque les jurés sont tenus au secret absolu. Et voilà, donc le jeudi s'est terminé comme ça. Et puis le vendredi, on imaginait que l'affaire serait pliée rapidement. Et en fait, il y a eu 6 longues heures de débat au sein des jurés. Et là, on s'est dit, il y a quand même quelque chose qui cloche. Pour en parler aussi longtemps, c'est que c'est pas clair du tout. Et voilà, et donc évidemment, on n'a pas su ce qui se passait avant quelques années, mais à l'époque, on n'a pas compris, mais on a senti qu'il y avait quelque chose qui se passait, en effet.
Et donc, au moment du verdict, en fait, parce qu'il y a égalité entre les avis, l'accusé est acquitté. On imagine, à ce moment-là, forcément, le monde qui s'écroule pour vous. Et puis, quelques années plus tard, effectivement, vous apprenez dans une interview au Morgan qu'un des jurés qui brise le secret des délibérations, il raconte dans le Morgan qu'en fait il a voulu se venger de la justice, mais c'est pas n'importe quel personnage non plus, c'était censé être un citoyen tiré au sort. Il se trouve que c'est le fils d'un des disciples de Léon de Grelle qui a combattu pendant la guerre avec un uniforme SS, qui par la suite a été accusé pour détournement de mineurs, donc quand même un personnage très particulier et qui est décédé quelques jours avant le procès, et son fils a voulu faire un pied-nez à la justice. On peut se demander quel est le rapport avec votre sœur, comment tout ça peut faire sens?
Aucun sens, en fait. C'est un rapport de loterie. En fait, on n'a pas eu de chance, je pense, d'être tombé sur ce jury-là, cette semaine-là, dans l'agenda de la cour d'assises. Voilà, c'est tombé sur nous, ben pas de chance.
Et c'est ça que vous définissez comme étant un des problèmes du processus, du procédé de la cour d'assises. Alors, ça reste toujours un débat, en fait, ce jury populaire, parce qu'au départ, il y avait une volonté de légitimité démocratique, de faire participer le citoyen à la justice, mais là, vous pointez les failles de ce système qui, entre-temps, a quand même été réformé en 2010, donc une année après cette interview au Morgan.
Ce livre est un témoignage de ce qui nous est arrivé et de notre regard sur l'absurdité de ce système, en fait, de se dire, mais est-ce que c'est vraiment comme ça que ça fonctionne? 12 personnes je veux dire, prises dans la rue, comme ça, au hasard, qui doivent se prononcer pour le jugement de quelqu'un. C'est grave de juger un homme, en fait. Et ils sont là, tout seuls. À l'époque, il n'y avait aucun cadre, à aucun moment. Donc, ils étaient seuls ensemble, ils jugeaient seuls, ils rendaient seuls leur verdict. Personne pour les structurer, leur expliquer, etc.
Et donc, c'est ça, en partie, pardon, je vous coupe, qui a évolué, notamment parce que vous avez écrit à Laurette Ankerlings, qui était ministre de la Justice à ce moment-là. Maintenant, ils sont accompagnés, encadrés par
alors, trois magistrats. Actuellement, ils sont uniquement accompagnés à la fin pour la rédaction de la motivation. C'est que maintenant, ils sont tenus de motiver leur décision et il faut rédiger cette motivation. Et donc, ils sont accompagnés uniquement pour cette motivation, en fait.
Voilà, mais vous expliquez que...